soupira Pierre. Alcossé pourtant tenait une place dans sa vie. Parce qu'il était son patron, bien sûr, et parce qu'il le laissait quand même agir à sa guise, mais surtout parce qu'il n'avait rien de commun. Augustin se souviendrait de sa première visite du service, Alcossé courant presque entre les lits, silencieux, regardant les malades, le regardant, pour conclure dans son bureau d'un « la voilà, notre vie est presque paternelle », dans lequel il aurait pu se reconnaître. Clin discouru surviennent, le docteur Freud et les rêves. Ensemble, ils s'interrogèrent longuement, pour la centième fois, sur les causes de la folie. Était-elle seulement physique ou mentale? Y avait-il une cause première? Et pouvait-on cesser, ici ou là, de remonter de l'effet à la cause, chaque cause n'étant elle-même que l'effet d'une cause antérieure qu'il fallait découvrir? Le temps passait comme à la campagne. 3 heures sonnèrent au clocher tout proche. La lumière changeait d'angle pour aborder les platanes. Peu à peu, la porte à tambour rejeta vers l'extérieur les colonels et les douairières. La brasserie se vidait dans la rue comme un seau. « Cette porte est un sphincter », murmura Klein, affaibli soudain par l'alcool et qui ne détestait pas les blagues de Carabin. Ils burent du café, et Pierre choisit un cigare de manille, puis ils se séparèrent avec un peu de regret. Augustin allait consulter en ville et l'aliéniste retournait entre ses quatre murs. C'était la France de cette époque, au début du siècle, un peu avant la guerre. Les valeurs paraissaient sûres et les sentiments profonds. L'étalon or, les colonies et la grammaire étendaient leurs ombres protectrices. Le cardiographe de Marais mesurait les mouvements du cœur. On se passionnait beaucoup, pour ou contre Dieu, pour ou contre Dreyfus. La ligne bleue des Vosges le disputait au Tonkin. L'inauguration d'une statue à Argenton ou à Contres voyait s'opposer les partisans du Goupillon et ceux de la libre pensée, et les journaux locaux rapportaient fidèlement leurs mâles paroles, qui n'épargnaient pas l'autorité publique. Le temps passait avec la lenteur des vaisseaux. Une vie ne se construisait pas en un jour. Des inspecteurs des finances coiffés du fait apuraient en français la dette ottomane. À la bourse, on jouait le Suez ou la banque de l'Indochine. Des gouttes de sueur perlaient au col glacé des exilés qui lisaient le temps, à la nuit tombante, à la terrasse du cercle de Pondichéry. Dans Paris, capitale libérée de l'ordre moral et confiée au gouvernement des Jules, des princes balkaniques côtoyaient les Apaches au bal Mabille, et la foule se pressait pour applaudir Laurent le Boquerois sale gangloff, rue de la Gaîté. À Longchamp, la cavalerie soulevait de la poussière et des chansons, et pendant que les cuirassiers ébranlaient les tribunes en bois blanc peuplées d'ombrelles, d'autres soldats, à demi nus, descendaient vers le Congo. Les officiers les plus en vue étaient fichés dans d'obscurs couloirs de ministères empiantis par l'urine. Les rapports de police, écrits dans la langue de Vidocq, fourmillaient de notations morales. Augustin Pierre aimait les événements d'un amour pur. En province tout n'était qu'aux rabutiudes. La jalousie, la méfiance seules étaient communes à l'été au sud, à la Provence et au Pas-de-Calais. Pour le reste, les préfets républicains et leurs gendarmes veillaient sur autant de pays aux mœurs différentes. Les uns étaient violents, et l'on faisait donner la troupe, les autres paisibles, et l'on s'ennuyait avec sagesse. L'Alsace et la Lorraine s'effaçaient doucement. Gantés de chevreaux jusqu'aux coudes, sanglés dans de lourdes carapaces de taffetas, les femmes ressemblaient à des insectes géants dévoreurs. Les hommes apeurés et vantards se rassuraient dans les maisons. Les jugements étaient exécutés. Chaque mois sous un ciel gris, le La Martinière quittait Saint-Martin-de-Ré pour Cayenne. Les coupons remplaçaient les indulgences. On ne faisait pas fortune, et chacun connaissait son état. Un peuple de laboureurs avait grandi et regardait l'avenir. Certes, ils n'occupaient plus l'Europe comme les anciens l'avaient fait, qui faisait trembler les pauvres gens de Rome et d'Iéna. Parfois ce peuple en éprouvait de l'inquiétude, les Anglais avaient la mer, les Russes la terre, les Allemands l'histoire, et lui, que lui restait-il, de l'esprit, de la science, les meilleurs écrivains, quelques positivistes pour le guider. Aujourd'hui les survivants ressemblent à des enfants meurtris. C'était la France de cette époque, il en coûtait de ne pas l'aimer. Deux Romains à cet endroit, la face plate de la Champagne berrichonne était coupée par un grand bois tendant vers la forêt et où dominait nettement, s'élevant au-dessus des hêtres et des érables, quelques cèdres bleus et un pin de Nordman écrété par l'orage. Retour du Tonkin, le colonel de Bussy avait vécu quelque temps au milieu de ce bois, dans une grande maison tendant vers le château. C'était une sorte de folie, dont les pièces régulières s'ouvraient les unes, aux autres avec cette impudeur tranquille dont le siècle des Lumières a emporté le secret. Rien de moins berrichon d'ailleurs que cette architecture de fantaisie, qui ne faisait aucune part au sortilège, sauf peut-être au sortilège de l'amour. L'abbé de Bussy avait imaginé tout cela. C'était un homme de l'argillière ou de Rigaud, le front vaste et la bouche ironique, mais les yeux tournés vers le bas qui ne disent rien de précis, l'air cavalier mais le petit collet, le portrait d'un aristocrate ordinaire en abbé de cour. Il se réglait en tout sur son maître, le cardinal de Berny, avec quelques degrés de moins dans la liberté et le bonheur. L'exil du cardinal lui valut d'être enterré à Bourges en compagnie d'un évêque pieux et crotté. Souple, patient, l'abbé accomplit ponctuellement ses devoirs mais se fit sans tarder construire cette retraite qui brouilla sa réputation. Un homme ne se contente pas d'une seule vie. Celui-ci était un gentilhomme entre deux eaux. À 10 lieues de là, il distribuait l'aumône et dédaignait les passantes. Entre ses murs et dans son parc, le diable avait sa place. Que le toit du château ressemblât à une mitre épiscopale ajoutait encore au scandale. Les paysans, pourtant pressurés sans mesure par l'abbaye la plus proche, n'étaient pas vraiment hostiles au clergé, mais les orgies à la petite semaine où l'abbé entraînait leurs plus jolies filles les privaient à la fois de femmes et de main-d'œuvre. Plusieurs fois, il manqua de peu d'être écharpé en pleine nuit, alors que satisfait il pissait sur les parterres de roses en regardant vaguement les étoiles. Un jour, l'essieu du carrosse qui le ramenait vers Bourges en compagnie des vieux libertins de province qui partageaient ses joies se rompit et la voiture versa dans la boue d'un fossé. Pour finir, le mal de Naples l'emporta. Il avait brûlé la plus grande part de sa fortune, l'équivalent d'un comptoir entier de pots venus du Canada. Il ne laissait rien qu'un surcroît de pauvres à son évêque, un peu d'orgueil à ses descendants, et du regret sans doute aux belles de la paroisse. Château et jardin partirent à l'abandon. Le petit temple de Cnid au fond du parc, où la comtesse de N. avait servi, nu, un dîner d'huîtres à ces messieurs, ne fut bientôt plus qu'un amas de pierres retournant au passé.